Vous écoutez RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchiel.
19h18 sur RTL, l'heure de l'échange guidé pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec le journaliste Patrick Chen. Bonsoir.
Bonsoir Marco, bonsoir à tous.
Le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonsoir Yves Tréhard.
Bonsoir Marco, bonsoir à tous.
Alain Duhamel nous a rejoint. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Rokhaya Diallo, auteur aujourd'hui, puisque le livre sort aujourd'hui, de Ne reste pas à ta place, comment arriver là où personne ne vous attendait aux éditions Marabout. Ce livre est en partie autobiographique. Il sort donc aujourd'hui en librairie.
Tout à fait. Okay, oui. C'est un livre sur l'estime de soi.
L'estime de soi, voilà. Très, très bien. On peut en parler des heures.
Absolument.
Mais on va d'abord parler des fonctionnaires.
On n'est pas autrice, auteur.
On peut dire les deux.
Ah, c'est vrai, j'aurais dû dire autrice.
On ne sait pas s'il a mis un E ou pas. Hein, donc
c'est vrai, on ne sait pas. Voilà. Sur ma feuille, il n'y a pas de E, mais bon.
Moi, je l'ai faute avouée, à moitié pardonnée.
Bon, voilà.
On va s'y mettre.
Allez, un Big Bang. Le gouvernement a donc présenté aujourd'hui sa très attendue réforme de la fonction publique, recours aux contractuels, fusion des instances du dialogue social, encouragement aux mobilités. L'objectif officielle est de la rendre plus attractive, plus réactive face aux nouvelles attentes des citoyens. Les syndicats dénoncent un alignement sur le privé et des outils supplémentaires pour tenir l'objectif d'Emmanuel Macron de supprimer 120 000 postes d'ici 2022. Une journée de mobilisation est prévue le 9 mai. La fonction publique est-elle réformable? Vous avez entendu tout à l'heure Yves Verrier de FO dire qu'elle est tout le temps de toute façon en train d'être réformée, cette fonction publique, et elle ne nécessite pas une grande réforme comme l'entend Olivier Dussopt, donc du gouvernement. Sur les réseaux sociaux, on en dit quoi, Benoît Galeret?
Bonsoir, mais vous en doutez, c'est les réseaux...
Bonsoir, Benoît.
Bonsoir. On entend surtout les mécontents. Hein. Le texte gouvernemental pratique une ouverture à la sauvage, dénonce le président de l'Association des administrateurs territoriaux de France, Fabien Tastet. Moins officiel, Gérard dénonce aussi un dénombrement de la fonction publique, soupirant que c'est un des buts recherchés par la campagne de dénigrement actuelle des fonctionnaires. Ce qui est le plus triste, c'est de voir les soi-disant grands serviteurs de l'État le tuer, regrette-moi. Ils cassent l'outil qui les haïssait à leur fonction. Ils ne sont pas des serviteurs, mais des assassins de l'État. Surtout, souligne le communiste Yann Brossac, les Français réclament plus de soignants dans les hôpitaux, plus de personnel au guichet, plus de profs dans les écoles. Le débat national, c'est en mode cause toujours, dit-il. Bah oui, mais les Français n'aiment pas non plus quand on augmente les impôts. Va comprendre, lui répond Hamza. Oui, réjouissez-vous avec Fillon et les Républicains. C'était 500 000 de moins, rappelle Yves. Et Julien d'affirmer que personne ne veut plus de personnel au guichet des gares si c'est pour payer plus cher son billet de train. Les machines automatiques sont très efficaces. Il faut avant tout se mettre d'accord sur le service attendu. Car l'ajout de personnel ne répond pas forcément aux besoins, dit-il. Mais oui, après les cheminots, un autre anachronisme français va tomber, encourage Michel. Tu parles, conclut Martin. Supprimer des fonctionnaires, c'est toujours supprimer du service public. Et le service public, c'est comme les êtres chers. C'est quand ils ne sont plus là qu'on se rend compte combien ils manquent.
Yves Tréhard, elle est souhaitable cette réforme?
Oui, elle est souhaitable. Moi, je pense que le monde a changé. Alors, moi, je ne vais pas parler de la suppression du nombre de fonctionnaires qui était effectivement à l'affiche de deux au moins des candidats à la présidentielle. Mmh. Et notamment de Macron et Fillon.
Fillon,
500 000, 400 000, Macron, 120
000. Oui, il était revenu un peu à la baisse quand il s'approchait de l'élection.
Mais Macron, c'était
de peur
120 000,
de trébucher.
La plupart d'ailleurs, enfin 70 000 je crois, dans la fonction publique territoriale. Bon, le sujet là c'est le statut de la fonction publique. J'entends les critiques qui disent il faut pas toucher, aux fonctionnaires parce que c'est vrai qu'il y a une noblesse de la fonction publique, il faut passer des concours, il faut être un bon citoyen et un bon soldat quand on est dans la fonction publique. C'est vrai, je l'entends. Simplement, le monde a changé, je pense. Et on est dans un monde, justement, où, comme dans le privé, eh bien, il faut être beaucoup plus adaptable. Mmh. Et la contractualisation des métiers de la fonction publique, en tous les cas, de quasiment tous les métiers, sauf des métiers qui sont peut-être afférents à la sécurité, eh bien, tous ces métiers me paraissent tout à fait adaptables au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment, je dirais, une résistance d'arrière-garde qui va se faire jour et qui existera nécessairement quand on connaît nos syndicats qui datent de l'ère préhistorique.
Moi, ce que je trouve, okay, regarde, ces syndicats préhistoriques...
Vous êtes à l'ère préhistorique ou pas? Non,
je ne crois pas y être, mais ce que je peux constater, c'est que quand même, de voir que ce projet rejeté de l'ensemble des syndicats qui sont nombreux de neuf ne peut qu'interroger. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est censé négocier et que finalement, non seulement on ne tient pas compte du refus des personnes qui sont quand même concernées en premier lieu, et qu'en plus, on ne change pas le projet initial qui a été présenté, enfin, moi, je trouve que c'est un mode de dialogue qui, quand même, interpelle. C'est-à-dire que que si on peut, bon, à la limite, interroger le bien fondé de la réforme, cette manière de faire, je trouve qu'elle est extrêmement brutale et qu'elle est irrespectueuse finalement par rapport aux syndicats qui, quand même, sont.
Mais
pas,
au-delà des discussions avec les syndicats et des négociations avec les syndicats,
oui,
est-ce que sur
ça
le.
Fait un moment qu'il n'y a pas d'accord. Mais le but de l'accord, c'est pas de dire si vous n'êtes pas d'accord,
sur le fond,
que je veux, quoi.
Mais sur le fond, parce que là, vous éloignez un peu du fond. Bon, ok, peut-être que la méthode n'est pas géniale, mais sur le fond.
Sur le fond, j'ai quand même l'impression que les Français n'ont pas envie d'avoir moins de fonctionnaires dans leur service public. Ce qui est apparu dans les revendications qui ont émergé ces derniers mois, c'est quand même l'exigence d'un service public de qualité. Et c'est surtout ce qu'on a observé en termes de vraiment de
contrariété. Oui, mais est-ce qu'on doit être fonctionnaire à vie ?
C'est le démantèlement.
Est-ce qu'on doit être fonctionnaire à vie ?
Pourquoi pas ? Je veux dire, ça, la question, c'est est-ce que le fait de ne pas être fonctionnaire à vie, est-ce que le fait de contractualiser, est-ce que le fait d'aligner certaines conditions de travail sur le privé, ça ne va pas dégrader la qualité
du service ? Je trouve Rokhaya Diallo plus convaincante sur d'autres sujets. Elle n'a pas l'air d'y croire, vraiment.
Si,
on parle de quoi ? On parle de 5,5 millions. On parle de 5,5 millions de fonctionnaires.
Patrick Chel.
Et on parle de supprimer toute fonction publique. Évidemment, la territoriale dont vous parliez tout à l'heure, c'est à peu près 1,9 million. L'hospitalière, c'est à peu près 1,1 million ou 1,2 million. Bref, on parle de 5,5 millions fonctionnaires. Et on parle, premier sujet, suppression d'emplois. En tout cas, peut-être de faire passer ces gens-là dans le privé, c'est le projet. Mmh. On parle, j'ai sorti ma petite calculette, de 2,18% de la population des fonctionnaires. Dans quelle société aujourd'hui ? Dans la société qui évolue, avec tout le respect que j'ai pour les fonctionnaires. La caricature insupportable des fonctionnaires qui ne travaillent pas, qui travaillent peu, elle est fausse. Mais je dis aujourd'hui, quelle est la société qui n'est pas capable de se mettre autour d'une
table peu, avec le patrons. Rapport d'hier, elle n'est pas totalement fausse, mais allez-y.
Avec des patrons d'un côté, des salariés de l'autre, quelle est la société aujourd'hui qui n'est pas capable de dire le monde change, on va baisser, on va changer les affectations pour économiser 2,18% des salariés. Je trouve ce débat complètement trop français, justement, parce qu'on n'est pas capable, au bout d'un an de discussion, de se mettre autour d'une table et d'essayer de préserver le statut des fonctionnaires. C'est le rôle des syndicats, mais aussi d'évoluer, comme le propose le gouvernement. Je suis totalement favorable à cette réforme.
L'évolution doit se faire dans les deux sens. Il y a un consensus. Il ne peut pas être uniquement le fait d'imposer à des gens qui ne sont pas d'accord.
Alain Duhamel, vous en pensez quoi du fond de la forme, mais le fond d'abord, ce qui est plus intéressant.
J'ai regardé la manifestation tout à l'heure. Ça n'aurait pas recouvert l'océan. Deuxièmement, il y a une dimension de la réforme dont on parle très peu, alors qu'elle explique notamment pourquoi tous les syndicats, y compris les syndicats réformistes, sont contre la réforme. C'est la diminution très nette des pouvoirs des syndicats au sein de la fonction publique qui est organisée par la réforme. Mmh. Évidemment, les syndicats, ça ne peut pas leur faire plaisir.
Ils veulent
parce
qu'en
gros, on leur demande à la fois un assouplissement général et en même temps, on leur retire une bonne partie des pouvoirs, qui explique pourquoi d'ailleurs le taux de syndicalisation est beaucoup plus élevé dans la fonction publique, dans les fonctions publiques, que dans le secteur privé. Et enfin, j'entends toujours opposer l'argument, les Français veulent plus de fonctionnaires près d'eux, ce qu'on entend tout à fait, et ce que d'ailleurs
que
tout le monde ressent. Tout le monde ressent, quand le facteur ne passe pas le matin, on est furieux, je suis d'accord. Bon, mais la fonction publique, elle évolue. Mmh. Et par exemple, on voit très bien que quand il y a des regroupements de communes, on a des empilements de fonctionnaires qui sont dévolus aux mêmes tâches. Là, il est tout à fait possible de diminuer leur nombre et au contraire de les répartir.
L'exemple d'Alain sur la Poste est excellent parce que la Poste a su quand même, c'est un bel exemple.
Ah oui, c'est un
fonctionnaire de la Poste, on suit ça. Là-dessus, Rokhaya,
c'est très concret, Rokhaya.
C'est concret. Et moi, en fait, je dis pas qu'il faille nécessairement plus de fonctionnaires, simplement ce que
donnent les Français. C'est moins la question.
Non, mais il faut pas qu'il en faille autant. Moi, la question, c'est que quand je dis que les Français veulent un service public de qualité, c'est pas nécessairement associé au nom. Et après, la question des regroupements, de l'automatisation de certaines fonctions, etc., elle fait aussi écho au fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont plus accès aux services administratifs, tout simplement par illettrisme numérique. Et ça, c'est une question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médiathèques, par exemple, dans les villes populaires, dans les villes où les gens n'ont pas accès à la lecture, dont les fonctionnaires sont obligés de faire, en plus de leur travail de bibliothécaire, de l'accompagnement pour le suivi administratif. Donc ça, c'est des métiers aussi qui ont besoin de personnel. Et ça, on n'en parle pas.
On y revient après la pub.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Faugier.
Et avec Yves Tréhard, Patrick Chêne, Rokhaya Diallo et Alain Duhamel. Alain Duhamel, sur la réflexion de Rokhaya, avoir besoin de fonctionnaires de proximité, finalement, avec une partie de la population qui a du mal avec ce nouveau monde, ce monde numérique.
Mais il y a à la fois des postes nouveaux qui doivent être créés, évidemment. Comme celui effectivement d'accompagnement de ceux qui sont pas à l'aise avec les ordinateurs, ce qui est assez compréhensible. Mais il y a aussi des postes qui n'ont plus de sens.
Bien sûr.
Et le solde, il est probable qu'entre les doublons géographiques par empilement de degrés administratifs, d'une part, et d'autre part, la numérisation qui, dans beaucoup d'administrations, allège évidemment le travail des fonctionnaires, il est probable que le solde entre les nouveaux postes indispensable à créer, notamment dans les régions désertifiées sur le plan administratif, d'une part, et d'autre part, les suppressions de postes par rationalisation et par nouvelles technologies, je pense que le bilan général va plutôt quand même naturellement à la diminution.
Mais là, on est sur le nombre, hein, puisqu'on parle du nombre, mais là, on est, sur le statut quand même, parce que le statut, un emploi à vie, même les jeunes aujourd'hui qui démarrent dans la vie, n'en rêvent plus d'emploi à vie, en fait.
Hein. Non, alors il y a les derniers sondages, vous savez, il y a un sondage qui est fait tous les ans pour savoir ce que les jeunes veulent faire plus tard, et c'est vrai qu'il y a 10 ans encore, à 75%, c'était entrer dans la fonction publique. Aujourd'hui, à 75%, c'est en majoritairement donc, de devenir entrepreneur. Alors après, on met ce qu'on veut derrière. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que...
Non, mais donc c'est quand même intéressant, parce que cet emploi à vie, il fait plus rêver de toute façon.
C'est révolutionnaire, le projet qui est présenté par le gouvernement, s'il va au bout, parce qu'on est loin du compte. Mais si la fonction publique ne veut plus dire être à vie dans son emploi... C'est quand même une révolution quasi copernicienne dans notre pays. Et ça me paraît tout à fait important, justement, d'aller dans ce sens-là. Parce que, si vous regardez bien les gilets jaunes, on dit souvent les gilets jaunes, qui sont des gens qui travaillent beaucoup, qui gagnent peu, qui se lèvent tôt le matin, pour la plupart d'entre eux, ils en veulent à ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Mais on ne parle pas assez du fait qu'ils en veulent aussi à ceux qui, justement, ont des avantages exorbitants par rapport au droit commun, on va dire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où on souffre de moins en moins des distorsions de régime, si vous voulez. On le voit avec les retraites. On le voit, et les retraites, les fonctionnaires ont un régime de retraite particulier. Et donc, c'est pas de l'égalitarisme, là. C'est le fait de faire en sorte que tout le monde
soit un peu logé à la même enseigne.
Du même, à peu
mais
près,
là-dessus, regardez, okay, vous qui sortez de ce critères. Livre, aujourd'hui, ne reste pas à ta place. Comment arriver là où personne ne vous attendait? Là où vous êtes aujourd'hui, vous n'avez pas un emploi à vie, vous êtes...
Non, c'est un choix.
Ouais, enfin, c'est un choix, c'est aussi ce qui vous a permis peut-être aussi de sortir de la condition à laquelle on voulait vous assigner, non?
Pas nécessairement, de toutes les façons, je pense que ça aurait été un progrès social d'être fonctionnaire par rapport à mes parents qui étaient des ouvriers, donc dans tous les cas, ça aurait été... moi, pour le coup, dans ma génération, il y a pas mal de gens qui sont dans la fonction publique et qui sont des enfants d'immigrés, issus de classe populaire, et pour lesquels ça représente une ascension sociale et puis une forme de confort avec une projection dans le futur à laquelle leurs parents n'avaient pas forcément pu accéder. Donc je pense que même si la majorité des jeunes aujourd'hui n'y aspirent plus, c'est parce qu'ils sont aussi dans une société où on leur a, comment dire, laissé entendre que cette possibilité-là n'existe pas. Mais je crois que c'est pas... Moi, ça me choque pas, en fait, que des gens puissent aspirer à avoir une fonction qui leur offre des garanties à vie. Si c'est pas l'aspiration majoritaire, on n'a pas vocation à forcer la majorité à le faire, mais il faut que cette possibilité existe. Quand on voit, par exemple, que dans cette proposition de réforme, des agents qui seraient dans des administrations qui basculeraient dans le privé seraient contraints en fait de suivre leur équipe dans le privé. Je pense que c'est important que les gens qui ont choisi d'être fonctionnaires puissent le rester.
Vous avec ce, nous contraindre.
Cette, et on termine après vous, Patrick, pour changer de sujet.
Sur cette réforme, il y a quand même des choses. Les contrats de projet qui existent dans les entreprises, qui peuvent vous garder pendant 5 ans sur un projet particulier, et on perd son emploi quand le projet s'arrête, mais on est accompagné pour une formation ensuite. Ça existe. L'égalité homme-femme, elle est bien précisée dans cette loi, et c'est intéressant. Et puis un congé de transition quand on veut changer de métier ou d'affectation. Des choses qui n'existent pas aujourd'hui dans la fonction publique. Et l'avancement au mérite, c'est quand même peut-être le plus important, qui n'existe pas dans la fonction publique.
Ça, c'est pas forcément... Enfin, après, le problème, c'est que ça met des formes de pression possibles. Enfin, dès lors qu'il y a des évaluations et du mérite, ça met des pressions qui sont... Enfin, non, mais oui.
Je suis pour.
Bah, ça met de l'humain dans des... Voilà.
Ça met de l'humain. Surtout, je trouve qu'on a tous tendance à débattre à partir des positions des syndicats. Et j'ai très souvent remarqué que les individus concernés,
dans l'éducation nationale,
par exemple dans l'éducation nationale, sont beaucoup plus évolutifs et ouverts que les syndicats qui les représentent.
Il faudrait
je pense
entendre,
notamment aux jeunes enseignants, par exemple, qui, quand il s'agit de changer de méthode d'enseignement, sont intéressés, alors que les syndicats sont souvent, disons, rétifs.
Allez, autre sujet dans un instant. Benjamin Griveaux va quitter le gouvernement. La bataille de Paris commence.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauché.
Ce soir avec Rokhaya Diallo, Yves Tréhard, Patrick Chen et Alain Duhamel. Benjamin Griveaux a donc fait son dernier point presse post-conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement va quitter son poste et mettre le cap sur la mairie de Paris. Il pourrait être suivi par son collègue et désormais rival Mounir Majoubi, qui lui souhaite rester au gouvernement, mais il pourrait être viré surtout. Troisième candidat à La République En Marche, le député Cédric Villani. Pour l'instant, dans les sondages, Anne Hidalgo fait la course en tête pour le premier tour. Pour le deuxième tour, c'est bien plus compliqué que tout le monde l'a raconté ce week-end. Alors, cette bataille de Paris peut-elle être fatale au parti d'Emmanuel Macron ou pas du tout? Benjamin Griveaux est le candidat idéal. Sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret.
Beaucoup se demandent déjà, comme Juliette, hein, qui va-t-il rester au gouvernement? Hubert aussi trouve qu'à 2 mois des européennes et 1 an des municipales, ce départ fait un peu titanique. Reste à savoir quel est l'iceberg imminent. Qu'importe, nous dit Renaud Pila. Après des mois de rumeurs, ça accélère enfin à Paris. Réunion des experts de Cédric Villani, interview au Figaro. Maintenant, la sortie de Griveaux et de Majoubi. C'est surtout qu'il va y avoir plus de candidats en marche que d'électeurs à Paris, s'étonne Fred. Leur idée, c'est de ratisser large à 3 pour donner une diversité apparente et de se désister au dernier moment pour celui que Macron aura désigné, soupçonne Dazot. À ce jeu-là, Griveaux n'est peut-être pas le mieux placé. Il a été très exposé à son poste de porte-parole, même si on ne peut pas enlever à Benjamin sa capacité à rassembler au moins du centre-gauche au centre-droit, moque Alexis. Il bénéficie quand même d'un énorme tremplin grâce à Macron pour se présenter. Ça peut lui suffire à l'opportuniste, soupire Babette. Bref, pas une super cote d'amour sur Twitter. Beaucoup de provinciaux remercient d'ailleurs les Parisiens de le récupérer, si jamais. Mais Steve ne le sent pas. Hein. Il est capable de faire réélire Anne Hidalgo. Ce serait un exploit, mais il en serait capable, se méfie-t-il. Le communiste Yann Brossat non plus n'y croit pas, estimant que Griveaux aura le bilan du gouvernement comme un boulet durant sa campagne. T'inquiète pas, c'est toujours moins pire que le bilan d'Hidalgo, ricane Ezekiel pour finir.
Alain Duhamel, est-ce que c'est un plus aujourd'hui de se lancer dans la candidature pour Paris avec l'étiquette Macron?
Un plus, je ne dirais pas ça, non. Mais ouais. En revanche...
Parce qu'on a beaucoup dit ça après les élections sur les législatives.
Ah bah oui, chèvre. Évidemment, mais ça c'était... Ouais. C'était
un autre
évidemment, à quelques bien semaines sûr d'intervalle, oui, bien sûr. Mais là, ce qui est frappant, c'est que il y a 6 mois, Anne Hidalgo est dans une situation extrêmement difficile. Mmh. Et depuis 6 mois, elle mène une contre-offensive extrêmement méthodique et qui porte des fruits. En face de ça, à La République En Marche, ils sont plusieurs à être sur les rangs. Étant plusieurs, ils se neutralisent. Il n'y a pas une parole commune. Il n'y a pas une tête qui incarne. Et donc, ils prennent du retard. Mmh. Et donc, la sortie de Benjamin Griveaux du gouvernement, ça veut dire que maintenant, il est temps qu'en face d'Anne Hidalgo, elle ait vraiment des adversaires.
Ouais, un vrai, quoi. Bon. Enfin, quelqu'un d'incarné qui puisse engranger.
En plus, franchement, parmi les trois dont vous parliez, ils sont tous les trois ils sont très différents les uns des autres. Mais ils sont d'un bon niveau.
Il n'y en a aucun qui se détache?
Intellectuellement, si, évidemment.
Il y en a un.
Bah oui.
Cédric Villani?
Bah oui, intellectuellement. Au calcul de petites cellules grises, je pense que c'est lui qui gagne. Maintenant,
mais est-ce qu'il faut être intelligent pour être à l'humeur de Paris?
Maintenant, au calcul des bulletins, je ne suis pas sûr que ce soit forcément la même chose.
C'est quand même marrant, parce qu'on voit peut-être là une différence entre l'ancien monde et le nouveau monde, parce que, je ne sais pas, ça s'appelait déjà le RPR et plus l'UDR, mais Chirac, t'y vas, ensuite un tel. Là, la stratégie de Macron, moi, elle m'échappe totalement. Est-ce que c'est vraiment très malin de laisser, parce que c'est encore le patron, jusqu'à preuve du contraire, est-ce que c'est très malin de laisser partir comme ça alors, déshabiller le gouvernement, j'y crois pas quand on voit les durées.
Oui, puis après, franchement, de secrétaires d'État qui s'en vont.
Exactement. C'est pas non plus des ministres d'État.
Non, mais un porte-parole, malgré tout, ça porte ou bien la parole du gouvernement.
Oui, mais ça se fatigue rarement longtemps.
Oui, rarement longtemps. Ça se fatigue. Najat Vallaud-Belkacem, elle a fait longtemps. Hein.
Oui, alors. Oui.
Non, toujours est-il que c'est un peu surprenant comme tactique, parce que c'est vrai que les voix vont se disperser, qu'ils vont se tirer dans les pattes les uns les autres. Moi, je pensais que Macron était capable de dire voilà, c'est Griveaux et personne d'autre, ou c'est.
Mais non, parce que il l'a pas fait pour une raison évidente. Ça. C'est que s'il se mêlait trop tôt de la campagne des municipales, évidemment, ça se mélangeait avec la campagne des européennes.
Oui, mais faire discrètement,
et la fin du grand débat.
Oh, discrètement.
Discrètement, je sais beaucoup mieux que vous qu'aujourd'hui, rien ne se fait discrètement. Non. Alors ça.
Et d'ailleurs, d'une certaine façon, on peut se demander si l'autorité, en tous les cas, d'Emmanuel Macron sur ses troupes est aussi forte que ça. Parce que je vous rappelle que Mme Loiseau, c'est elle qui a annoncé sa candidature en direct à la télévision, même si elle avait peut-être.
Elle devait être baquée quand même.
Chuchotée à l'oreille du président.
Bah oui, bien sûr. C'est quand même un peu
évident. Non, mais enfin, c'était quand même étonnant qu'elle le présente comme ça. Lui, il s'est mis d'accord avec. Macron. Bon, moi, je pense que ce qui est sûr, c'est que Anne Hidalgo, contrairement à ce qu'on disait il y a un ou deux ans, n'est pas battue. Et loin de là, elle est probablement une des favorites. Oui, mais elle est quand même une des favorites, parce qu'on est loin du compte, on est loin du but, je dirais. Et puis, moi, je ne vois pas, si vous voulez, une notoriété très grande. Alors, vous me direz, est-ce que la notoriété est nécessaire aujourd'hui pour se faire élire, même président de la République, peut-être pas.
Rappelez-vous, Bertrand Dallanoë, alors c'était en 2000, hein,
c'est
2001,
vrai, mais c'est vrai, personne n'avait raison. Hein, mais ouais. Je pense que les jeux sont loin d'être faits. Et ils sont loin d'être faits parce que j'ajouterais. Alain parlait de quelqu'un qui avait un peu changé de stratégie, qui était Anne Hidalgo depuis quelques mois. J'ajouterais aussi le changement de stratégie de Madame Dati. C'est pas fait non plus, c'est peut-être pas elle qui sera la candidate des Républicains. Mais je vois chez elle, en tous les cas, depuis qu'elle s'est déclarée candidate, un changement de discours, de ton et de présentation qui est évident.
Pourquoi elle est bien élevée maintenant?
Voilà, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous voulez, elle a commencé à rationaliser un peu son discours politique, ce qui me paraît peut-être à même de pouvoir séduire pour la droite au-delà des seuls arrondissements de l'ouest de Paris.
Pas au-dessus du genou, hein, je remarque.
Ce qui montre bien que l'intelligence mathématique n'est pas suffisante pour faire de la politique. Je pense qu'il y a d'autres formes d'intelligence qui peuvent aider, en tout cas les personnes qui ont des aspirations politiques, puisque l'intelligence, effectivement...
Bah sinon, il y aurait quelqu'un comme... intelligents politiques.
Non, mais après, je pense que l'intelligence, on ne peut pas la circonscrire uniquement aux scientifiques, comme Cédric Villani a pu en faire preuve par le passé. Je crois qu'effectivement, là, aujourd'hui, Anne Hidalgo est avantagée par le fait que c'est la candidate claire de son rang et qu'elle a en face d'elle des candidatures qui ne sont pas...
De
ses rangs, en fait. C'est-à-dire que de son côté, il n'y a pas... Non, mais c'est normal.
À gauche, on est...
C'est normal. Mais c'est vrai que, du coup, c'est un avantage par rapport aux trois... Est-ce que je peux finir mes phrases, c'est quand même incroyable, ce interrupting frénétique. Donc, ce que je voulais dire, du coup, j'en perds mon idée, c'est qu'effectivement, tant qu'il n'y aura pas de décision qui sera prise du côté de la REM, on n'aura pas vraiment une vision claire de ce dont sont capables les candidats. Et puis après, c'est vrai qu'Anne Hidalgo n'est pas très populaire, mais c'est vrai qu'on oublie que beaucoup des personnes auprès desquelles elle est impopulaire ne sont pas des Parisiens, des habitants de Paris. Il y a beaucoup de gens qui circulent à Paris, qui n'habitent pas à Paris, qui ne voteront pas à l'élection municipale parce qu'ils habitent en banlieue. 70% des personnes qui circulent à Paris pendant la journée, ce sont des personnes qui n'habitent pas à Paris et qui, de fait, malgré la rancœur qu'ils peuvent éprouver à l'égard d'Anne Hidalgo, n'auront pas pouvoir de décider de son maintien ou non. Donc tout ça, je pense que ça donne une vision un peu déformée des gens qui vont voter pour elle, parce que beaucoup des Parisiens ne sont pas des conducteurs, n'ont pas de voiture, circulent en transport, en vélo, etc. etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas.
En revanche, ils trouvent la ville sale quand même.
Oui, ça, elle a toujours été sale. Après, elle était sale avant Hidalgo. Donc là, pour le coup...
Sous Delanoë, elle était très propre.
Oui, alors ça a duré quelques temps. Mais moi qui suis née, qui ai grandi à Paris, je n'ai jamais vécu dans une ville propre. Hein.
Allez, autre sujet, dernier sujet, pas des moindres dans un instant, la folle rumeur des enlèvements d'enfants avec... les conséquences, donc on en débat dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel.
Ce soir avec Patrick Chan, Yves Tréhard, Alain Duhamel, Rokhaya Diallo. Les Roms de Seine-Saint-Denis, victimes du poison de la rumeur, les réseaux sociaux en plus, ils sont désignés comme étant à l'origine d'enlèvements d'enfants dans le département, enlèvements qui n'ont jamais eu lieu. Déjà, une vingtaine de personnes ont été interpellées pour avoir participé à des expéditions punitives contre eux. Des comparaisons immédiates étaient prévues aujourd'hui. Alors, comment lutter contre ces rumeurs? La faute à qui aujourd'hui numérique? Justement sur les réseaux sociaux.
Mais qui sont ces gens assez bêtes pour croire toutes les conneries qu'on trouve sur les réseaux, s'agace Fred? Eh bien, je peux lui répondre qu'ils sont nombreux. Hein. Les habitants de zones de relégation, répond Georges, qui réactive une rumeur de plus de 2 siècles et de défendre les Roms, membres de la plus importante minorité discriminée d'Europe, excusez-moi. En tout cas, arrêtez de pointer du doigt les réseaux, parce qu'il y a Internet partout en France et ça ne prend que dans les cités, accuse Antoine. Ali lui répond que c'est peut-être pas l'occasion de faire du racisme anti-jeunes de banlieue. Encore en plus, certains hésitent encore. Ruby trouve que voler des enfants pour vendre des organes, ça a l'air logique. Oui, oui, ils empoisonnent des puits aussi, soupire Jean-Paul et Jonathan de rappeler que même si ces rumeurs étaient fondées, on ne remplace pas la police, jamais. Le souci, c'est qu'on ne pense pas à en appeler à la justice dans ces quartiers, s'émeut-il. Descartes, pour finir, demande aux enseignants du 93 de parler en classe de cette rumeur, de son fonctionnement sur Internet et de la démentir, car sur le terrain, dit-il, les enfants Rome n'osent plus aller à l'école.
Incroyable, hein, mais c'est la réalité.
Révoltant, troublant.
Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi?
Oui. Alors, d'abord, ce qui compte, c'est le terreau. Patrick Chen. Je pense que la rumeur s'installe et pousse lorsqu'il y a un terreau. Là, le terreau, il existe, par des déclarations souvent totalement irresponsables, de politique notamment. Et puis, alors, il y a une question que je me pose, j'ai du mal à analyser tout ça, parce que d'habitude, je me dis que si on donnait à la vindicte populaire, si on disait « ce sont les blonds aux yeux bleus qui enlèvent des enfants », je ne pense pas qu'il y aurait des, comme ça, des expéditions punitives. Donc, je pense que ça va très loin dans la réflexion, et ça demande... c'est vraiment un des sujets qu'on ne peut pas traiter comme ça en disant voilà, il faut faire ça et ça. Je crois qu'il faut reprendre. Bah, c'est l'éducation, c'est la culture.
Ah bah on
c'est...
y est encore dans des dizaines d'années. Hein.
Mais on mettra plusieurs dizaines d'années.
Non, mais ce qui est intéressant.
À lutter contre la bêtise humaine. Ce
qui est on mettra pas quelques dizaines d'années. Je crois qu'on n'y arrivera jamais.
Ce qui est intéressant, c'est que le sujet qui est mis en avant à l'occasion de cette histoire, c'est les réseaux sociaux. Moi, j'ai souvenir quand j'étais petit. d'une rumeur qui était la rumeur d'Orléans où on accusait des gens d'enlever des femmes pour les emmener en Afrique et j'ai vécu une rumeur moi-même
dans les cabines d'habillage on racontait qu'il y avait des traces dans les cabines d'habillage et qu'ensuite elles étaient emmenées dans les camionnettes.
J'ai vécu une autre rumeur et qui n'était pas aussi due à Internet, c'est Isabelle Adjani, je vous le rappelle, avec le sida. Néanmoins, il n'y avait pas de suite violente.
C'est ça, c'est les suites.
Là, c'est les suites violentes.
C'est ça.
Mais ces suites, mais je veux dire que le phénomène de la rumeur est bien antérieur, évidemment, aux réseaux sociaux, même si ça peut l'amplifier. Là, je pense que
c'est ce que ça enclenche, ouais.
Oui, ce que ça enclenche, qui est terrible. Mais on voit bien pourquoi, parce que évidemment, les Roms, c'est une population qui ne compte quasiment aucun défenseur dans la population, et que c'est effectivement une cible, je dirais quasi désignée. Et alors là, comment faire pour... Je pense que les seuls, c'est là, évidemment, ce sont les pouvoirs publics qui, là, alors là, seront dans leur rôle en faisant toute la prévention nécessaire.
Je vous interromps une seconde, puisque tout à l'heure, on débattait donc du départ de Benjamin Griveaux, possible départ de Monir Majoubi. Un communiqué de l'ISA à l'instant, Olivier Bostin.
Tout à fait. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République vient de mettre fin aux fonctions de 3 ministres, donc, de Nathalie Loiseau, pour faire la campagne des élections européennes, Benjamin Griveaux, pour faire la campagne pour la candidature pour Paris, et également Monir Majoubi, également candidat potentiel pour Paris, pour La République En Marche. Donc, 3 départs du gouvernement. Pour l'instant, on n'a pas le nom des successeurs.
On verra ça et on est d'accord par rapport à votre papier de tout à l'heure, Olivier, à 18h. Il y en a 2 qui étaient demandeurs pour partir. Un 3e à qui on a montré la sortie.
Ouais, c'est comme ça qu'il faut probablement l'interpréter. Est-ce que Monir Majoubi est plus embêtant à l'intérieur ou à l'extérieur du gouvernement? C'est la question qui se posait à Emmanuel Macron.
Bah manifestement, elle ne se pose plus. C'est voilà. Dehors. Merci Olivier. Bon, ça revient à notre sujet. Donc,
ce qui est intéressant pour les remplacer, j'ajoute ils peuvent ne pas être remplacés et que leur portefeuille ou leur fonction soit occupée par d'autres.
Oui, on verra ça plus tard. Allez, on revient à notre sujet donc, sur la rumeur et ses conséquences. Okay.
Je crois que la rumeur en fait a simplement permis de montrer le sentiment anti-Rome qui est extrêmement profondément ancré dans la population. Oui. Parce que comme ça a été dit par une personne sur Twitter, on ne se fait pas justice soi-même. C'est-à-dire que ce réflexe d'aller spontanément mener des expéditions punitives, pour moi, est juste l'expression de quelque chose qui avait envie de s'exprimer en fait depuis longtemps, mais qui était tout simplement enfoui. Je me souviens quand même qu'en 2014, il y a un jeune garçon qui s'appelait Darius, qui avait été violemment agressé, retrouvé dans une poubelle à Pierrefitte-sur-Seine. Je me souviens aussi qu'en 2012, il me semble que c'était en 2012, dans les quartiers nord de Marseille, des personnes de quartiers populaires justement étaient descendues, avaient mis à sac un camp de Roms, et qu'à l'époque, ça avait été justifié par une élue locale. Donc,
il y a quand même.
Donc, tout ça, en fait, pour moi, c'est un continuum historique. Et les Roms, en France, dans la littérature, même.
Pas qu'en France, dans tous les pays, même en Roumanie.
Bien sûr, oui, mais en France aussi, dans la littérature, je pense à Notre-Dame de Paris, etc., les Roms, les Gitans, etc., ce sont les les voleurs de poules, les bohémiens, les fauteurs de troubles. Et il y a quand même des voix qui s'élèvent. Il y a des associations comme la Voix des Roms. Je pense aussi à une jeune femme qui s'appelle Anina Chouchou, qui était justement, qui a grandi dans un camp de Roms, qui est devenue avocate et qui veut s'engager en politique. Je pense que quand ces voix-là émergeront, à la fois politiquement et médiatiquement, on pourra enfin, dans l'imaginaire collectif, humaniser les personnes d'origine rom, parce qu'on a l'impression qu'on parle de personnes qui n'existent pas vraiment et qui ne sont pas des personnes comme les autres. Et je crois que dans, il y a un travail évidemment d'éducation à faire sur à la fois l'histoire et puis la légitimité des Roms, mais aussi de visibilité des personnes d'origine rom.
Ce qui est compliqué, c'est que la moindre des choses est de les traiter comme les autres, mais qu'en même temps, eux ne veulent pas être comme les autres.
Ouais.
Parce qu'il y a un communautarisme qui existe aussi.
Oui,
là,
ça
dépend. Beaucoup,
moi, je pense à cette jeune femme que j'ai citée, elle est avocate.
Moi, j'ai un souvenir très précis les concernant, qui est que dans le Languedoc, quand il y a une fois par an le pèlerinage auprès de la Vierge Noire, alors ils viennent de toute l'Europe, et notamment les paysans, mais même ceux qui sont dans des petits pavillons, tout le monde se barricade. C'est incroyable, ça devient un phénomène vraiment collectif. Et puis, il y a toujours, évidemment, des déprédations ici ou là, immédiatement. Alors là, ça prend des proportions. Il y a eu 5 vols, et ça devient une journée, une région mise en coupe réglée. Enfin, il y a à la fois une volonté de différence et un traitement 1000 fois plus différent. Bon,
oui,
mais il faut se dire aussi que c'est quelque chose qui, ce type de rumeur, c'est quelque chose qui a existé tout le temps dans l'histoire. Au Moyen-Âge, quand les gens étaient roux, ils étaient soupçonnés d'être diaboliques. Mmh. Et on les brûlait souvent.
Il y a une volonté, volonté de différence.
Et en
même temps, et en même temps, il y a aussi une appréciation de certains aspects de la culture rome. Je pense par exemple à la
musique,
etc.
Ah, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de culture rome.
Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a une ambivalence. C'est que d'un côté, on aime bien le côté sympa, folklorique, etc. Ah, mais eux, on ne veut pas les voir. Et pourtant, on s'approprie leur culture.
Merci à tous les quatre d'avoir refait le monde sur RTL. Dans un instant, le flash de 20h avec Céline Landreau. Et ensuite, ce sera à vous, Jacques Pradel. Bonsoir.
Bonsoir, Marc-Olivier.
Au sommaire de votre émission, Jacques.
Eh bien, ce soir, nous revenons sur le meurtre au printemps 1987 d'une petite fille de 9 ans, Sabine Dumont. En moins de 2 mois cette année-là, 4 très jeunes filles ont été ainsi assassinées en Île-de-France, vraisemblablement par le même tueur en série pédophile qui n'a jamais été identifié. Mmh. Mais la police, vous allez le découvrir dans l'émission, continue l'enquête et espère toujours aboutir à la vérité.
À tout de suite, Jacques.